Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant. Fugue. Au programme, FTA 2023, Soliloquio, de et par Tiziano Cruz. S'affirmer au-delà des violences. Le Texas vote l'interdiction des soins de transition de genre aux mineurs. Malgré l'amendement à la loi anti-LGBT, les homosexuels risquent toujours la peine de mort en Ouganda. Et la santé mentale des personnes LGBTQI+, en Croatie, est en danger. Bonne écoute!
Mes débuts dans l'éternité. Commentaire de lecture de Gaëtan Bélanger paru le 20 février 2023 dans le magazine littéraire Nuit Blanche. Un recueil de nouvelles de Gilles Archambault publié chez Boréal en 2022. Ce recueil rassemble une quinzaine de nouvelles chuchotées à l'oreille des lectrices et lecteurs sur le ton de la confidence, de la nostalgie et aussi d'une certaine mélancolie. Comme dans ses plus récents ouvrages, Gilles Archambault révèle ses préoccupations à propos de la vieillesse et de la mort. De sa propre mort, de plus en plus imminente, ainsi que celle des proches et des connaissances, le laissant chaque fois plus solitaire, lui qui a déjà confié l'avoir été depuis toujours. Fidèle à son habitude, l'auteur présente tous ses textes, sauf un, à la première personne, le narrateur étant donc également le protagoniste. Cela contribue à l'impression qu'une bonne part des confidences distillées relèvent de l'autobiographie. Il est question des relations avec les enfants, avec les parents, avec les femmes, avec les amis. Les regrets, les ratages, les bêtises, les succès, les voyages ainsi que le monde de la littérature et de l'édition sont d'autres sujets abordés. En somme, il s'agit des thèmes chers à Gilles Archambault et qui reviennent de façon récurrente dans ses livres. Dans la nouvelle « Un jour à Prague », il révèle « J'ai toujours cru que je mourrais jeune », un aveu déjà livré ailleurs. Dans le texte « Le voyageur », par la voix de son protagoniste, il déclare « Je suis devenu vaguement écrivain, journaliste pigiste, scénariste d'occasion ». Référence donc à son propre parcours professionnel? Fort probablement. Dans la nouvelle « Mon père », il réfléchit à l'amour posthume auquel son géniteur pourrait avoir droit. Et il conclut que bientôt, tout deviendra posthume en ce qui me concerne. Encore donc un passage qui paraît largement autobiographique. On le voit, Gilles Archambault revisite les thèmes qui le préoccupent depuis longtemps, en mettant l'accent sur les pertes dues au temps qui passe et à la mort, qui menace inéluctablement. Ses lectrices et lecteurs le retrouveront assurément avec grand bonheur. C'était « Mes débuts dans l'éternité », commentaire de lecture de Gaëtan Bélanger paru le 20 février 2023 dans le magazine littéraire « Nuit Blanche ».
Délit en série, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs. Un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Mon Dieu, bénissez ce projet. écrivit le prêtre Wendat Prosper Vincent Sawatanin dans son journal intime le 2 septembre 1909. Il venait tout juste de prêter au docteur Miller, archiviste de New York, rencontré la veille, un dictionnaire manuscrit français Wendat, rédigé par des jésuites au tournant du 18e siècle, afin que l'Américain puisse en faire une copie au dactylographe. Miller a donné à Vincent $50 en gage pour cet emprunt. Le prêtre portait un grand intérêt à la culture et la langue de sa nation. Il était l'un des derniers locuteurs du Wendat et allait d'ailleurs 2 ans plus tard enregistrer ce rouleau de cire des chants hurons pour l'ethnologue Marius Barbeau. Miller semblait vouloir, en recopiant le contenu du dictionnaire manuscrit, préserver les mots Wendat pour la postérité, d'où probablement le bon mot de Vincent dans son journal. Les deux hommes se sont revus après cette rencontre et plus tôt que prévu. Le docteur Miller ne s'en tient pas à son contrat, la copie d'un seul manuscrit, souligne d'ailleurs le prêtre dans son journal. En effet, Miller est revenu voir Vincent dès le 3 septembre, souhaitant emprunter 2 autres livres et, quelques jours plus tard, des portraits en peinture des 4 chefs qui sont allés en Angleterre. Probablement un portrait de Nicolas Vincent Tsarenhoby, Stanislas Kostka-Hararathana et Michel Tsewe Teasiendahe, qui ont rencontré George IV en 1825. L'archiviste américain demanda aussi des wampum et des médailles à Herménégilde, neveu de Prosper Vincent. Le prêtre avait raison de souligner, quoique brièvement, les incessantes demandes de l'Américain, Samuel Millington Miller étant un homme sans scrupules, plus intéressé par l'argent que la préservation de la culture autochtone. Il n'allait jamais rendre le dictionnaire prêté par Vincent, préférant le revendre pour en tirer un bon prix. Le contexte de l'époque inspira et favorisa sans doute son entreprise. Utilisons donc le cas de Miller et d'autres afin de mieux comprendre la frénésie de collection au tournant du 20e siècle pour des documents et des objets du patrimoine autochtone ou concernant la Nouvelle-France. Patrimoine à vendre. À cette époque, Samuel Miller n'était pas le seul à cogner à la porte de personnes autochtones pour en tirer quelque objet. Pour malheur, les Hurons de Lorette ont vendu presque tous les objets précieux qu'ils avaient reçus de leurs ancêtres. S'il m'est possible de vous trouver quelques souvenirs authentiques, je me ferai un plaisir de vous les envoyer à votre adresse à Montréal, écrivit en octobre 1909 Prosper Vincent à David Ross McCord. Ce dernier était en correspondance avec plusieurs personnes pour obtenir, en don ou contre-paiement, des objets à exposer dans son nouveau musée de Montréal. Au 19e siècle, plusieurs individus et institutions commencèrent en effet à s'intéresser au patrimoine autochtone, pour sa qualité exotique d'abord, puis pour des fins d'études et pour préserver les traces de culture que l'on pensait alors vouées à disparaître. Les manuscrits écrits par des missionnaires en langue autochtone n'échappèrent pas à cet intérêt. Collectionnés entre autres par le Collège Sainte-Marie, fondé par les Jésuites à Montréal, par le Séminaire de Québec Université Laval ou encore par de riches collectionneurs, ces documents étaient mis en lumière pour un cercle restreint lors de certaines occasions. Par exemple, plusieurs manuscrits et des imprimés en langue sauvage, ainsi que des reliques indiennes, ont été exposés au 15e Congrès international des Américanistes en septembre 1906 à Québec. Parmi ces manuscrits, un dictionnaire Huron, vendu quelques années auparavant par le notaire Wendat Paul Picard Tsarenhoby, cousin de Prosper Vincent, au notaire et collectionneur de Québec Cyril Tessier, ainsi qu'un dictionnaire français Huron, donné par le même Picard en 1896 à l'Université Laval pour payer les frais de scolarité de son fils. Notons que ni Vincent ni Picard ne souhaitaient se départir de leur patrimoine. Par exemple, le premier refusa de donner une médaille venant du grand chef Nicolas Vincent Tsawenhoe à McCord. Picard, quant à lui, refusa net de vendre ses manuscrits en Wendat à différents collectionneurs avant de devoir s'en départir, en dernier recours semble-t-il, à cause d'une situation financière difficile. Vous écoutez « Délit en série, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Un exemple, le dictionnaire de Prosper Vincent. C'est donc, dans ce contexte particulier, que Samuel Miller a flairé la bonne affaire au Québec. Il faut dire qu'il jouissait sûrement d'une mauvaise réputation sur la côte est américaine depuis qu'il avait tenté de vendre en 1905 en Caroline du Nord une copie contrefaite de la Mecklenburg Declaration of Independence. Ce document aurait été publié dans un journal en mai 1775 lorsque les résidents du comté de Mecklenburg se sont déclarés peuple libre et indépendant, mais aucune copie originale n'a été sauvegardée. Si avérée, cette déclaration aurait précédé de plus d'un an la Déclaration d'indépendance des États-Unis. La véracité de la Mecklenburg Declaration of Independence a soulevé des débats au 19e siècle. Pour en revenir au journal retrouvé par Miller, des experts ont découvert la supercherie après analyse du document et ils ont publié leurs résultats. C'est probablement la raison pour laquelle Miller s'est déplacé plus au nord pour continuer ses affaires. Que l'Américain ait eu en tête de revendre le livre dès son prêt auprès de Vincent ne fait pas de doute. En effet, le 10 septembre 1909, à peine 8 jours après avoir obtenu le dictionnaire, Miller fit authentifier l'auteur présumé du manuscrit, le père jésuite Pierre Chaumonneau, à l'Université Laval, où étaient conservés d'autres documents en langues autochtones. Quelques mois plus tard, en février et avril 1910, on retrouve Miller et le dictionnaire de l'autre côté de l'Atlantique à une vente aux enchères par Potick & Simpson à Londres. Si Miller avait espéré que le voyage et les frais encourus en vaudraient la peine, il fut gravement déçu. En effet, les enchères ne montèrent pas beaucoup et il racheta son propre document pour 190 puis seulement 60 livres sterling. En effet, il semble y avoir eu assez peu d'intérêt en Europe plus généralement pour des documents en langues autochtones. Miller préféra alors revenir au Canada où l'intérêt pour ce type de documents était plus grand. Profitant peut-être de la mort de Prosper Vincent en 1915, le seul ayant connaissance des termes de l'emprunt accordé à l'Américain, ce dernier vendit le dictionnaire au notaire montréalais Victor Morin. Ancien président de la Société historique de Montréal et de la Société Saint-Jean-Baptiste, chercheur en histoire du Canada, Victor Morin possédait une bibliothèque de plus de 10 000 volumes qui contenait, en plus de documents en langue autochtone, plusieurs livres sur l'histoire de la colonie, les Jésuites, les gouverneurs, l'Acadie, ainsi que des ouvrages anciens de Samuel de Champlain ou de Marc Lescarbot. Miller lui raconta qu'il avait acheté le document à Lorette. Pour preuve d'authenticité, afin probablement de ne pas répéter l'erreur de la Mecklenburg Declaration of Independence, l'Américain pouvait présenter une note d'authentification signée par Prosper Vincent sur le troisième plat du dictionnaire. Morin fut un peu surpris que les Wendat aient vendu des objets à un Américain inconnu, mais ne s'en formalisa pas outre mesure. Selon le catalogue de la bibliothèque du notaire, le dictionnaire français Wendat valait 6 000 $, probablement la somme qu'il a payée à Miller. Morin, pour sa part, conserva son glossaire français Huron quelques années avant de le vendre en 1931 aux enchères à New York, avec une partie de la bibliothèque, afin de faire face à la crise économique. C'est la John Carter Brown Library, au Rhode Island, qui s'emporta acquéreuse par un intermédiaire. Son bibliothécaire entreprit alors des recherches pour confirmer l'auteur du dictionnaire et comprendre un peu mieux comment Morin était entré en sa possession, mais jamais on ne soupçonna quoi que ce soit à propos de Miller. Ce dernier a donc bien réussi son larcin, qui lui a rapporté bien plus que les 50 $ mis en gage auprès de Vincent. Fraude et vol en Syrie. Ce vol d'un objet du patrimoine autochtone n'est pas unique. En Ontario, vers 1850, le juge James V. Campbell a acheté à un autochtone, probablement Wyandot, une grammaire en Wendat Wyandot rédigée par le père jésuite Pierre Potier un siècle plus tôt. Le juge a écrit à un ami, Richard Elliott, que cette grammaire valait son poids en or, soulignant encore une fois la valeur de ses manuscrits. Avant sa mort en 1890, Campbell aurait prêté son manuscrit à un copiste canadien qui ne lui a jamais rendu. Selon Elliott, ce copiste serait un certain M. Prudhomme de Sandwich en Ontario. Ce dernier ne se cacha pas d'avoir la grammaire en sa possession. Il la prêta, en effet, à l'ethnologue américain James Filling pour une entrée de sa « Bibliography of the Iroquoian Languages » 1888. À la mort de Prudhomme, la grammaire n'a pas été retrouvée et on ne sait comment elle a fini par intégrer les archives des Jésuites à Montréal. Les colliers de wampum étaient d'autres items autochtones prisés des collectionneurs. L'anthropologue Margaret M. Brookchuck s'est, par exemple, plongée dans l'histoire d'un collier de wampum mis aux enchères par Sotheby's en 2009. Ce collier avait originellement été donné par les cinq nations Haudenosaunee à Kanesatake à la fin du XVIIe siècle. Depuis cette époque, un chef et gardien des wampum en avait toujours pris soin jusqu'à la mort de l'un d'entre eux en 1910. En attendant le choix d'un nouveau chef, les wampum ont été confiés à un proche, qui les a plutôt vendus à un antiquaire. Ce dernier les a à son tour vendus à l'anthropologue américain Frank Speck, qui les a refilés à son ami Edward Sapir du Victoria Museum. Alors que les wampum perdus étaient recherchés, les deux amis firent tout pour entraver leur rapatriement. Il faut dire que depuis la fin des années 1800, les musées et antiquaires avaient commencé à collectionner des colliers de wampum Haudenosaunee, entraînant la disparition suspecte de plusieurs d'entre eux. Je vous rappelle que vous écoutez « Délits en Syrie, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150. Intérêt canadien. Cet intérêt pour le patrimoine autochtone au 19e et 20e siècle s'inscrivait plus largement dans l'attention des collectionneurs et bibliophiles comme Victor Morin, Hospice Anthelme Véraud, l'abbé Louis-Édouard Bois pour l'histoire de la Nouvelle-France et du Canada. Là encore, répondant à cet intérêt, certaines personnes n'ont pas hésité à se procurer des documents intéressants de manière plus ou moins légale pour faire du profit. Dans une série d'articles publiés dans Le Devoir, le journaliste Sylvain Lombroso a ainsi mis en lumière le cas du Parisien Léo Lémarie. En marge de ses recherches sur les insectes puis sur la Nouvelle-France, il commença à voler des documents d'archives. Se rendant chez des notaires français à des fins de consultation, il en profita pour subtiliser quelques documents comme une procuration que Jeanne Mance, cofondatrice de Montréal, avait envoyée à sa sœur Marguerite pour présider à la destinée de ses biens français. Une fois en possession des précieux documents, Lémarie trouvait des collectionneurs intéressés par ces rares items. Le français eut toutefois moins de chance que Miller. Il fut accusé et condamné en 1932 à 4 mois de prison pour vol de documents. Le contexte des 19e et 20e siècles a contribué à la dispersion des objets du patrimoine autochtone, en plus d'être un terrain fertile pour la circulation de documents sur l'histoire du Canada. Il est souvent difficile de retracer leur provenance, même si les transactions étaient légales. Les voleurs pouvaient recourir à divers stratagèmes pour se procurer de quoi satisfaire les collectionneurs, qui, comme Morin, pouvaient se faire mentir sur la provenance réelle de leurs achats. Néanmoins, comme le montre par exemple l'entrevue de Marie-Lou Pagé avec Jonathan Lainé des procédures de rapatriement sont aujourd'hui possibles dans certains cas. Fanny Dionne détient un doctorat en histoire de l'Université McGill, réalise des contrats en histoire pour plusieurs institutions et va commencer un stage postdoctoral à l'Université du Québec à Montréal. Elle se spécialise dans l'étude des manuscrits missionnaires en langues autochtones. C'était « Délit en Syrie, comment des voleurs ont nourri la passion des collectionneurs », un texte de Fanny Dionne, paru dans Capot Diamant, été 2022, numéro 150.
Déjouer la déprime hivernale, un texte de Laura Landry, paru janvier 2023 dans la revue Protégez-vous. Le trouble affectif saisonnier touche près d'une personne sur cinq. Pour le combattre, rien de tel que de se comporter en hiver comme on le ferait en été. Le temps des fêtes est passé. On voit moins de monde. On sort moins, les factures rentrent, les journées sont froides et les nuits longues. Janvier est difficile pour plusieurs. Le blues de l'hiver, ce n'est pas qu'une impression. La déprime saisonnière ou trouble affectif saisonnier, TAS, touche de façon grave 2 à 3% de la population canadienne et près d'une personne sur 5, 20%, de manière légère à modérée. Les effets de cette déprime commencent à se faire sentir dès l'automne et atteignent leur pic au milieu de l'hiver. Quelles en sont les causes? Ce trouble est dû principalement à la baisse des heures d'ensoleillement qui vient jouer sur le niveau d'hormones et l'activité de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. La baisse de sérotonine joue sur l'humeur. Les fluctuations dans la mélatonine altèrent nos rythmes d'éveil et de sommeil. Certains ont beau dormir des heures, ils se lèvent fatigués. Les femmes, à cause des variations dans le taux d'estrogène, sont 4 fois plus nombreuses que les hommes à être touchées par la déprime saisonnière. La baisse d'ensoleillement a un effet, soutient Marie-Pierre Lavoie, psychologue spécialisée en dépression saisonnière hivernale. Mais cet effet est amplifié par les changements de comportement. Les gens sont plus casaniers, ils socialisent moins, ne font plus les activités qu'ils aiment. Tout ça mène à la déprime. Certains facteurs peuvent aussi contribuer à cet état morose. Par exemple, pour les gens qui ont des emplois saisonniers et dont le rythme de vie et d'activité change radicalement pendant la saison froide. Bouger, sortir. Quand on se rend compte qu'on commence à trop vouloir être en mode cocooning, il faut passer en mode actif, dit Marie-Pierre Lavoie. La psychologue recommande de conserver un horaire de sommeil stable, de bien manger, mais surtout de faire des activités qu'on aime et d'éviter de s'isoler. En fait, de vivre en hiver avec plusieurs bonnes habitudes de l'été. S'exposer à la lumière naturelle est l'idéal pour ne pas tomber dans la déprime hivernale. Le mieux, explique-t-elle, c'est de conjuguer activité physique et exposition à la lumière. Les deux jouent sur notre métabolisme et apportent des bienfaits pour notre santé mentale. Le froid vous rebute pour sortir et jouer dehors? La solution, habillez-vous confortablement. C'est certain que si on a froid chaque fois qu'on va à l'extérieur et qu'on ne fait rien d'amusant, dit-elle, l'expérience est négative. Luminothérapie. Quand l'accès à la lumière naturelle est difficile, la luminothérapie peut aider. vous trouverez des lampes de luminothérapie de bonne qualité en pharmacie, dans les grandes surfaces et certaines boutiques spécialisées en équipement médical. Pour maximiser les bienfaits de cet éclairage, l'idéal est de s'exposer tôt le matin afin de stimuler la phase d'éveil du corps, surtout s'il y a plus d'une heure entre notre réveil et le lever du soleil. Il est recommandé de commencer par une exposition de 15 minutes, 2 à 3 fois par semaine. On ressentira les changements assez rapidement, généralement au bout d'une semaine. Si vous avez des troubles de santé particuliers, mieux vaut consulter un professionnel avant de faire l'achat d'une lampe de luminothérapie. Certains effets secondaires, tels que l'agitation et la fatigue oculaire, peuvent apparaître, note la psychologue. La thérapie. Dans certains cas, la dépression saisonnière doit être traitée au moyen d'une thérapie adéquate. Il est important de reconnaître nos pensées négatives et de bien les gérer, mentionne la psychologue Béatrice de Montigny. La thérapie aide les personnes dont le diagnostic est confirmé à retrouver une bonne hygiène de vie et à socialiser pour mieux traverser les mois les plus sombres de l'année. C'était « Déjouer la déprime hivernale », un texte de Laura Landry, paru janvier 2023 dans la revue « Protégez-vous ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.